那个会很晒，反正都要体验。
Tu me dis quand c'est correct? OK. Je suis comme pas prêt, moi. Je connais moins. Je connais moins. Non, non, c'est correct. Écoute, en guise d'introduction, je vous lis un verset, puis je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, c'est je ne commenterai pas le verset. C'est plus un tremplin pour le sujet que je veux traiter avec vous ce matin. Paul, dans Éphésiens 5, il nous dit ceci, il écrivait ceci aux Éphésiens. Et d'ailleurs, hein, on dit l'épître aux Éphésiens, mais c'était une lettre circulaire. On a trouvé des manuscrits de l'épître aux Éphésiens où est-ce qu'il y avait un blanc. Tu sais, autrement dit, la lettre était écrite pour plusieurs églises, tu sais, puis à chaque église, on pouvait donner la lettre. Donc, c'est une lettre qui est écrite dans la région d'Éphèse. Il dit ceci, « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Mon épouse m'a demandé à un moment donné, hey, « Tu devrais parler du chant, le chant dans l'assemblée, le chant dans l'église. » Puis comme tout bon mari, j'ai pris du temps avant d'écouter. Ça a pris plusieurs années, t'es patiente. Puis je me suis arrêté sur cette question du chant-là. Puis j'ai fait certaines découvertes que j'aimerais vous partager ce matin. Puis juste une partie des découvertes que j'ai faites, parce que il y a d'autres choses que je pourrais dire, mais on n'a pas le temps. Je pourrais aussi vous mentionner qu'il y a un excellent livre qui a été écrit par Keith et Christy Getty sur le sujet, qui s'appelle tout simplement « Chantons ». Petit livre, pas gros, mais beaucoup de bons enseignements. Et dans ce livre-là, il commente Colossiens 3.16, parce que Colossiens 3.16 et Éphésiens 5.18 que je vous ai lu, c'est deux textes qui sont parallèles. D'ailleurs, l'Épître aux Colossiens et l'Épître aux Éphésiens ont été écrits pas mal en même temps. Fait qu'on a beaucoup de similitudes entre les deux. Entre autres, en ce qui concerne ce verset-là de Éphésiens 5:18, Colossiens 3:16 dit un petit peu la même chose, puis il commente ce verset-là. Puis je vous cite en début de message, à titre d'introduction, qu'est-ce qu'ils écrivent. Il dit « La Bible est spécifique quant au contenu de ce que nous devrions chanter. Paul instruit ainsi les Colossiens. » Puis il cite Colossiens 3.16, « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » Donc, il poursuit en disant, « La parole peut habiter en nous dans toute sa richesse, notamment lorsque nous la chantons les uns aux autres. Nous avons l'ordre de chanter la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité révélée dans les Écritures, le récit de la rédemption. Nous devons fondamentalement chanter au sujet de Dieu tel qu'il s'est révélé en Christ, de manière suprême, dans ses souffrances et sa gloire, puisque c'est là le sujet de toute la parole de Dieu. L'expression « dans toute sa richesse » nous fait penser à des termes tels que « généreusement »,« magnifiquement », »,« parfaitement » et « entièrement ». Donc, la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit sous la plume de Paul, dans les deux passages que je vous ai cités. Elle nous ordonne, comme Getty dit, pas seulement nous exhorte, mais nous ordonne de chanter en assemblée. Maintenant, je me suis posé la question, quand c'est que ça a commencé dans les Écritures? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent à propos de cette question-là de chanter comme Église, comme assemblée? Quelle instruction que ça donne? Puis j'ai resté surpris de constater qu'il n'y a comme pas d'enseignement où est-ce qu'il dit, bon, mais maintenant, dans vos églises, voici, vous devez, entre autres, chanter. Il n'y en a pas d'instruction. J'ai regardé les textes du Nouveau Testament, puis c'est comme si c'est quelque chose d'acquis. On chante, on chantait. Puis les Juifs aussi, en synagogue, chantaient. Donc, c'est comme si on fait quelque chose qui a toujours été fait dans le Nouveau Testament. Puis je vous les cite, les versets, parce que c'est intéressant. Un des premiers textes qu'on a, c'est qu'on voit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a célébré la Pâque avec ses disciples avant d'aller à la croix, après le repas de la Pâque, qui institue la scène dans Matthieu 26, 30, entre autres, puis Marc 14, 26, c'est écrit, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, ils chantent. Ils chantent les cantiques après avoir pris le repas de la Pâque. Mais quand Dieu, dans sa Bible, nous explique pourquoi il dit, les psaumes 113 à 118 forment un ensemble de 6 psaumes de louange à Dieu que l'on appelle couramment le Hallel égyptien. Hallel, ça veut dire louer Dieu en hébreu. Bon, ils étaient chantés, c'est cantiques-là de 13 à 18, ils étaient chantés lors de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête des tabernacles, avec une importance toute particulière lors de la Pâque qui célébrait la libération de l'oppression égyptienne que les Israélites avaient vécue. Donc, traditionnellement, on chantait avant le repas le psaume 115, 113 et 114. Après ça, les psaumes 115 et 118, après le repas, on les chantait. Donc, on peut penser que lorsqu'on lit le texte de Matthieu 26, 30, il nous dit qu'il venait de chanter le psaume 118 avec ses disciples avant de quitter la chambre haute. Donc, à cette occasion-là, le Seigneur Jésus avec ses disciples chante parce que les Juifs, lors des fêtes, chantaient. Dans Actes 16, 25, on a un autre référence au chant, c'est lorsque Paul et Silas sont emprisonnés. Puis Luc écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Puis les prisonniers les entendaient. Donc, tout naturellement, ils prient, ils sont dans une position pas trop le fun, être emprisonné, puis tout naturellement, ils prient, mais ils chantent aussi. Puis, il devait chanter des choses qu'il connaissait, hein, tous les deux. Donc, il chante, puis il prie. Puis, il chante de telle manière que tout le restant de la prison entende ce qu'il chante. Jacques exhorte les chrétiens, puis leur dit ceci dans la même pensée. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ou on pourrait traduire qu'il psalmodie, hein, qu'il chante. Paul, dans 1 Corinthiens 14, 15, va dire qu'on doit chanter avec notre intelligence. Romains 15, 9 et Hébreux 2, 12 citent des textes de l'Ancien Testament qui mentionnent qu'on doit chanter à la gloire de Dieu puis le célébrer au milieu de l'Assemblée. Donc, on déduit de ces textes-là, que les Juifs, autant les nouveaux croyants, d'une manière tout naturelle, chantaient dans leur rencontre. On déduit ça. Puis lorsque Paul écrit ici ces deux textes-là qu'on a lus, il n'écrit pas pour dire « vous devriez chanter dans vos réunions », mais plutôt pour spécifier quel devait être la nature ou le contenu des chants, ça devait être des chants qui instruisent, ça devait être des chants qui, tu sais, ils donnent des instructions sur ce qui devait être chanté. Je recherche le texte, là. Hein? Ça devait nous entretenir, entre autres, dans ce que nous dit Éphésiens, puis Colossiens, ça nous dit que ça devait nous instruire, nous exhorter en toute sagesse. Il donne le but que devaient avoir les chants, mais pas chanter lorsque vous comprenez un peu ce que je veux dire. Les deux dernières mentions, c'est dans l'Apocalypse. À trois reprises, c'est marqué qu'on chante en l'honneur de l'agneau. Apocalypse 5, 8, 10, c'est écrit « Quand ils eurent pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Donc, ils chantent un cantique nouveau, puis ils nous donnent le contenu de ce chant-là. Dans Apocalypse 14:3, les 144 000 chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, puis les personnes ne pouvaient pas apprendre ce cantique-là. Et finalement, dans Apocalypse 15:3, c'est écrit qu'ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau, en disant, etc. Donc, le cantique de l'agneau, ici, on peut penser qu'il fait référence à ce qui est dit dans Apocalypse 5. Puis le cantique de Moïse, ben, on le retrouve dans Exode 15. On peut penser qu'il fait référence à Exode 15. Puis c'est un cantique que les enfants d'Israël ont chanté lorsque Dieu les a miraculeusement fait traverser la mer Rouge. Avant ce cantique-là d'Exode 15, il n'y a pas grand-chose non plus dans l'Ancien Testament qui est dit à propos du chant. Vous pouvez regarder, là, mais il n'y a pas vraiment grand-chose. On a quelques références que je n'ai pas notées, que je ne peux pas vous laisser, là, mais on n'a pas beaucoup de références. Exode 15 est le premier cantique qu'on retrouve dans les Écritures. Puis ce matin, c'est ça que je veux regarder avec vous. Je veux regarder ce cantique-là. Puis avant de le regarder ensemble, là, je veux faire quelques remarques préambules. Donc, on va tourner dans Exode 15, c'est important si vous voulez me suivre. Puis regardez le cantique de Moïse. Quelques remarques avant de regarder le cantique, puis on ne lira pas tout, on va plutôt lire les versets en le commentant, là, parce que c'est quand même un bon cantique. Remarquez que l'Exode 15 commence avec « alors ». Parce que c'est un cantique qui si on aurait le temps, on pourrait lire Exode 14, puis voir que dans Exode 14, c'est le récit de comment Dieu a fait traverser les Israélites, la mer Rouge, en ouvrant la mer, parce que les Égyptiens étaient en train de vouloir les rattraper puis les ramener. Ils ont perdu leur cheap labor, puis là, ils se réveillent, puis ils disent, ça n'a pas de bon sens, tu sais. On avait au-dessus d'un million et plus de travailleurs, puis là, on ne les a plus, puis ils regrettent de les avoir laissés aller. Donc, eux, ils sont pris entre la mer, puis les Égyptiens, puis Dieu, d'une manière miraculeuse, rouvre la mer Rouge pour les faire traverser. Donc, suite à cet événement-là, c'est la raison pourquoi Moïse et les enfants d'Israël chantent le cantique, ce cantique-là à l'Éternel. On l'appelle le cantique de Moïse parce que probablement que c'est Moïse qui l'a écrit. On peut penser que Moïse l'a écrit pour deux raisons. Premièrement, ben, c'est lui qui a écrit les livres du Pentateuque. Puis deuxièmement, c'est vous allez voir que c'est quand même un cantique qui a du contenu. Hein? On n'a pas la musique, mais on a ce qu'il chantait. Et puis Moïse étant été élevé dans la sagesse puis dans la haute société de l'Égypte, ben était le meilleur placé pour composer un tel cantique puis être utilisé de Dieu aussi pour écrire le Pentateuque. Donc, le contenu, au moins, du cantique nous fait croire que c'était un art qui était connu. C'est pas que Dieu leur a, à ce moment-là, montré, voici, on peut chanter des cantiques, puis voici comment faire. On peut penser que c'était un art connu, puis qui était un art qui n'était pas seulement utilisé par les Israélites, mais dans le monde en général et parmi les Égyptiens. Comment ce cantique-là est divisé? Il y a plusieurs gens qui divisent le cantique. Hein? Quand on chante un cantique, souvent, on a des strophes. Donc, les gens ont essayé de diviser le cantique. La plupart le divisent en trois, mais quelqu'un le divise en quatre. Puis je trouve ça génial comment il le fait. Puis on va regarder le cantique en voyant qu'il y a quatre strophes dans le cantique. Parce que chacune des strophes, sauf la première strophe, commence par une double affirmation. Je vais vous montrer. Puis chacune des strophes, sauf la dernière, se termine de la même manière en mentionnant comme une pierre ou comme du plomb. Donc, c'est technique un peu, mais vous allez voir que ça nous donne la saveur du cantique, puis c'est vraiment intéressant. Je vous fais remarquer, la première strophe, c'est les versets 1, au milieu du verset 1, qui commence à chanter jusqu'au verset 5. Vous allez remarquer au verset 5, c'est écrit à la fin qu'ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Deuxième strophe, c'est de 6 à 10. Puis c'est écrit à au verset 6, ta droite au Éternel a signalé sa force, ta droite au Éternel, double affirmation. Puis au verset 10, c'est écrit, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Troisième strophe, verset 11, ça commence par une double affirmation. Hein? Qui est comme toi parmi les dieux éternels, qui est comme toi, magnifique en sainteté, puis ça finit comme au milieu du verset 16, ils deviendront muets comme une pierre. Et finalement, la quatrième strophe, ça commence au milieu du verset 16. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, jusqu'à ce qu'il soit passé, double affirmation, et se termine au verset 18, puis je vous ai dit qu'il n'y avait pas, tu sais, il n'y a pas de référence là. Donc, il y a quatre strophes. Chaque strophe a trois parties. Ça commence par un verset d'introduction. Après ça, il y a une confession au sujet de Dieu. On dit quelque chose, on confesse Dieu dans sa personne. Puis ensuite, il y a une narration. Ça donne une narration de ce qui est arrivé ou ce qui va Dieu va faire dans l'avenir. Je vous le dis, là, c'est pas clair, c'est peut-être pas évident, mais vous allez le voir en regardant lorsqu'on va regarder ce cantique-là. Donc, les deux premières strophes parlent de ce qui est arrivé, ce que les Israélites viennent juste de vivre, puis les deux dernières strophes parlent de comment Dieu va agir vis-à-vis son peuple dans l'avenir. Dernière remarque que j'aimerais faire, c'est remarquer au verset 20, c'est écrit, « Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron et aussi sœur de Moïse, on le sait, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins en dansant. Et Marie répondait aux enfants d'Israël, chantait l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Maintenant, je vous propose, je ne peux pas le démontrer, mais j'aime imaginer que c'est arrivé comme ça, je vous propose qu'entre chaque strophe, les femmes répondaient au peuple qui chantait en chantant ce petit bout-là de cantique. Donc, à chaque fois que une strophe finit, les femmes viennent puis en écho, chantent ce qu'on vient de lire. J'aime aussi m'imaginer que ça devait être quelque chose. Hein. Le peuple d'Israël, on estime que le peuple qui est sorti du pays d'Égypte, avec les chiffres qui nous sont donnés, puis en extrapolant, parce que souvent les chiffres, c'est juste les hommes qu'on comptait, mais si on extrapole, tu sais, les chiffres, puis en pensant aux enfants, puis tout ça, c'était probablement 2 millions de personnes. Fait que j'aime à croire qu'il y a une multitude de gens qui chantent. Probablement au-dessus ou près d'un million de personnes qui chantent le cantique. Est-ce qu'ils l'ont pratiqué? Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça nous est dit quand même que Moïse et les enfants d'Israël ont chanté ce cantique-là. J'ai déjà expérimenté d'être dans une conférence d'hommes où est-ce qu'on est 3500 qui chantent. C'est spécial. OK, là, on est prêt. Je voulais donner ça, mais on est prêt à regarder le cantique que les enfants d'Israël ont chanté, puis essayer d'apprendre des choses de ce cantique-là. On commence. Strophe 1. Introduction, verset 1 ou le milieu du verset 1. Lorsqu'ils chantent, ils disent « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ça l'introduit le cantique. Ça nous introduit aussi le fait que le cantique, il est préoccupé par Dieu. Hein? On chante à l'Éternel, on chante à Dieu. On chante le fait que c'est lui qui a délivré son peuple. On chante le fait qu'il a précipité le cheval et le cavalier, les Égyptiens, dans la mer. C'est un cantique déjà, en partant, qui élève la personne de Dieu. Ensuite, il y a la confession. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'on parle de la personne de Dieu dans les versets 2 et 3. Puis remarquez ce qui est dit au sujet de Dieu. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. On a une confession de la personne de Dieu. Et je disais qu'il y avait trois parties dans chaque strophe. La troisième partie, la narration. Où est-ce que c'est écrit qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Et vous savez, il chante ça, là, puis c'est exactement ce qui avait vécu. Je ne sais pas, là, la journée d'avant, la semaine d'avant, mais peu importe, il venait tout juste de vivre ces événements-là, des événements stressants. Hein, on peut comprendre qu'on aurait été stressé du fait que toute une armée sont en train de venir de vouloir nous ramener à la servitude. Puis, il chante ça. Et vous savez, j'aime aussi lorsqu'on chante des chants qui nous parlent de la réalité de la vie chrétienne, hein, de ce qu'on vit comme enfant de Dieu. Je voulais vous faire remarquer avant aussi, j'aurais dû vous le dire en ce qui concerne l'introduction et la confession, remarquez que c'est toute la communauté qui chante. Hein, c'est écrit « Je chanterai à l'Éternel », c'est écrit « Je l'exalterai à la fin du verset Dieu ». Donc, c'est un cantique communautaire, mais chacun des Israélites le chante pour lui-même parce que c'est ce qu'il a vécu. Donc, c'est aussi un cantique personnel. Puis, je trouvais ça intéressant lorsque on a aussi assisté à une conférence il y a un institut biblique au Nouveau-Brunswick qui fêtait les 50 ans, puis qui ont fait venir les Getty dans ce contexte-là. Puis il nous a fait une petite conférence le samedi matin. Puis il mentionnait que lorsqu'on chante en assemblée, c'est la seule occasion où est-ce que tout le monde chante en exprimant la même pensée, la même chose. Hein? Il sort de notre bouche toutes les mêmes vérités. On est tous en accord. Je sais que lorsque quelqu'un prie, on doit dire « Amen » parce qu'on est en accord avec ce qui a été prié, mais c'est une personne, un individu qui prie. Tandis qu'un cantique, c'est comme tout le monde ensemble, on exprime les mêmes vérités. Mais ces vérités-là, on se les approprie aussi. Hein, un peu comme les Israélites, souvent, tu sais, des fois les cantiques, bon, on va sentir que, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on veut remercier Dieu ou c'est comme ça que on vit notre vie chrétienne où on veut, tu sais, mais c'est quand même collectif au niveau des cantiques. Donc, on peut s'imaginer qu'après avoir chanté ça, on a Marie puis les femmes qui répondent aux enfants d'Israël, « Chantez l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et là, la strophe 2, introduction. Remarquez la double affirmation. « Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, ta droite a écrasé l'ennemi. » Donc ici, lorsqu'on lit la droite de Dieu, lorsqu'on lit au niveau de la droite dans les Écritures, ça nous parle de puissance. C'est la manière que dans l'Ancien Testament, on exprime l'idée de puissance lorsqu'on parle de la droite d'une personne. Donc, Dieu, avec puissance, a signalé sa force puis a écrasé l'ennemi. Puis c'est ce qu'il avait dit à Moïse dans Exode 6:1, avant ces événements-là. « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Donc, Dieu avait déjà prophétisé ce qui allait arriver. Maintenant, les Israélites peuvent chanter qu'est-ce qu'ils ont vécu de cette main puissante-là de Dieu. La confession, qu'est-ce qui est dit à propos de Dieu? Verset 7, « Par la grandeur de ta majesté, cette confession-là, il parle toujours de la personne de Dieu. Hein? « Par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. » Et encore là, Dieu leur avait dit. Puis encore là, dans Exode 14, ça nous est dit comment Dieu a accompli ces choses-là. Exode 14, 21, 22, on écrit ceci. « Moïse étendit la main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient une muraille. » À leur droite et à leur gauche. Puis vous imaginez, là, le peuple est en train de chanter ça, mais ils sont en train de chanter des choses qu'ils ont vécues d'une manière majestueuse. Et ici, c'est écrit qu'il y a un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité, puis remarquez comment le cantique image ce vent impétueux-là au verset 8. C'est écrit « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous voulez souffler une bougie, vous n'allez pas souffler par votre nez. Ce n'est pas fort, hein, lorsqu'on souffle par le nez. Puis pourtant, lorsque c'est écrit ici que c'est un souffle, que c'est un vent impétueux, Moïse choisit ici de l'imager par le souffle des narines de Dieu. On peut s'imaginer quelle est la puissance de Dieu si Moïse décide d'utiliser ce terme-là. Ensuite, on a la narration. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque Dieu a ouvert les eaux? Ben, remarquez comment Moïse va parler ici de l'arrogance des Égyptiens. Parce qu'il était sûr là, qu'il allait ramener le peuple. Puis, on lit la narration. L'ennemi disait, puis remarquez comment toutes les étapes, comment les Égyptiens réfléchissaient, comment Moïse le démontre. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ça, c'est l'arrogance des Égyptiens. Mais au verset 10, on a la réponse de Dieu. « Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. » Et là, vous allez remarquer comment Moïse image le fait que la mer a refermé. « Tu as soufflé de ton haleine. » Encore là, on ne souffle pas une bougie avec notre haleine. Mais pourtant, Dieu a ramené les eaux, puis Moïse l'image ici en disant qu'il a refermé les eaux par le souffle de son haleine. Et les Égyptiens, qu'est-ce qui est arrivé? Mais comme du plomb, ils sont enfoncés dans les eaux. Et on s'imagine ici que Marie et les femmes, après cette deuxième strophe-là, entonnent ce chant-là. « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'encourager le peuple à continuer à chanter à l'Éternel ces vérités-là. Hein? « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Strophe 3, verset 11. L'introduction au verset 11, puis remarquez à nouveau la double affirmation. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, Dieu de louange, opérant des miracles? » On exalte Dieu. On lui dit, hein, « Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Qui est comme toi? » Et vous savez, ils disent ici, Moïse le dit, hein, « Qui est comme toi parmi les dieux? » Mais le peuple, il venait de sortir d'Égypte et les Égyptiens avaient une panoplie de dieux. Puis là, Moïse est en train de rappeler au peuple d'Israël, mais Dieu, il n'est pas comme ces dieux-là, il est au-dessus de ces dieux-là. Hein, pendant 400 ans, ils ont vécu en Égypte, puis ils ont été vus, puis ils ont été probablement enseignés à propos des dieux égyptiens. Puis Moïse est en train de leur dire, non, non, non. « Toi, Éternel, qui es comme toi parmi les dieux d'Égypte. » Exode 12, on lit ceci, 12-12, cette affirmation que Dieu fait lorsqu'il envoie, pour en ce qui concerne les premiers-nés, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. « Je suis l'Éternel. » Donc, c'est exactement ce que Moïse réaffirme dans cette introduction-là, de la troisième strophe. Ensuite, on a la verset 12 et 13, encore la confession de la personne de Dieu. Verset 12, « Tu, Dieu, tu as étendu ta droite, la terre les engloutit par ta miséricorde. » Tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la demeure de sa sainteté. C'est par la miséricorde, hein, ici qui est écrit par la droite de Dieu, mais par la miséricorde de Dieu que Dieu a délivré son peuple. C'est exactement ce que Dieu avait dit par la bouche de Moïse en Exode 6:6. « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. » Et ici, Dieu les délivre par sa miséricorde, mais il les délivre pour les emmener dans le pays qu'il leur avait promis. C'est ça qui est écrit dans ce qu'on vient de lire. Donc, il les dirige vers la terre promise, vers Jérusalem, vers la ville sainte, la résidence où ce qu'il va résider, le tabernacle, c'est là où allait être la présence de Dieu. C'est là vers où il va les conduire. Donc, il les a arrachés d'Égypte pour les conduire dans un bon pays. Et là, on n'a plus ce qui est arrivé, mais ce qu'on anticipe, ce que Dieu va faire dans les versets 14 jusqu'au milieu du verset 16. Hein? Tout le pèlerinage qu'ils vont faire, et surtout, il est en train, Moïse va leur dire comment la crainte va s'emparer des peuples vers qui ils vont. Dieu vous a délivré à main forte des Égyptiens, mais il va aussi continuer à vous diriger jusqu'au bon pays. Verset 14, « Les peuples apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. » Puis remarquez hein, comment la manière que c'est décrit, comment ces peuples-là vont avoir peur. Hein. Par ta puissance, verset 14, « Ils tremblent, la terreur s'empare des Philistins, les chefs des dômes s'épouvantent Un tremblement a saisi les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan sont tombés en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Et c'est exactement le témoignage qu'on a de Rahab dans Josué 2, hein, lorsqu'ils sont arrivés, puis qu'ils ont traversé le Jourdain, puis qu'ils ont rencontré la ville de... Merci. Je savais que ça commençait par J, puis je cherchais dans ma tête la ville de Jéricho. Hein. Qu'est-ce que Rahab leur dit? « Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Orgue, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage. » Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, Dieu est en train de leur dire ce qui va arriver, mais c'est exactement ce qui arrive dans l'avenir. On anticipe ici. Et finalement, on a la fin de la strophe 3. Et qu'est-ce qui arrive? On a Marie avec les femmes qui... répondent à cela, « Chantez l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et on arrive à la dernière strophe, la strophe 4. Introduction, là, à la suite du verset 16, et encore là, on a une double affirmation. « Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. » Et ici, de quoi on parle lorsque le peuple va passer? Hein? Ben, ils vont passer le Jourdain pour que Dieu les introduise dans le pays qu'il leur a promis. Et remarquez aussi ici quelque chose d'intéressant. Moïse va dire que le peuple que Dieu fait passer le Jourdain, c'est le peuple que Dieu s'est acquis, le peuple que tu t'es acquis. Il l'a acquis comment? En le délivrant de l'esclavage de l'Égypte. Et nous sommes aussi un peuple acquis. Pierre, dans son épître, utilise les mêmes termes. Hein. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et Dieu nous a acquis comment? En nous délivrant de l'esclavage du péché par l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix. Comme Dieu a délivré de l'esclavage le peuple d'Égypte, puis s'est acquis un peuple à lui. Pierre va encourager les croyants d'Éphèse en leur disant qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit, qu'il est un gage de notre héritage pour la rédemption de qui? De ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, il faut le lire pour ce qu'il est. Hein, c'est le récit de comment Dieu agit dans l'Ancien Testament, mais on a de belles analogies. Hein, lorsqu'on lit, à propos surtout de la délivrance du peuple d'Israël, qui est une belle analogie de notre rédemption. Verset 17, on a la confession. On a un peu ce qui est répété au verset 13, mais je vais vous faire remarquer qu'il va un peu plus loin. Tu les amèneras, et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire que tes mains ont formé. Ici, il va un peu plus loin en disant qu'il va les délivrer puis les conduire, mais il va les conduire à bon port. Hein? Il va les amener puis les établir sur la montagne de ton héritage. Ici, on peut penser que c'est probablement la ville de Jérusalem hein, qui était sur une montagne. Donc, il confirme hein, qu'il va les amener là, puis il confirme que sa présence va toujours être avec eux, que c'est lui qui va les amener jusque-là. Et c'est encore une belle analogie. Hein? Dieu nous promet qu'il va être avec nous hein, jusqu'à la fin des temps, puis qu'il va nous amener aussi à bon port, comme on l'a entendu ce matin, tu sais, qui nous prépare une place, puis que c'est acquis. C'est quelque chose qui on espère. Ce n'est pas quelque chose qu'on juste espère qu'il va arriver, puis on est à peu près certain parce que Dieu est grand. C'est acquis. comme c'était acquis que Dieu allait mener son peuple jusqu'à la montagne, comme de son héritage, comme Moïse l'écrit dans ce cantique-là. Et on a l'anticipation au verset 18. L'Éternel règnera éternellement et à toujours. Et le cantique, il se termine sur une note, on pourrait dire, céleste. Parce qu'ici, c'est écrit que l'Éternel va régner éternellement et à toujours. Tu sais, autrement dit, le cantique anticipe plus que le peuple va avoir son pays, puis je vais l'amener jusque-là. C'est que l'Éternel, il a un règne éternel au-delà de. Malheureusement, tu sais, même ils vont demander un roi, puis Dieu aurait dû être le roi, etc. Mais ici, Moïse termine en disant « L'Éternel règnera éternellement et à toujours. » Et il amène leurs yeux au-delà du pays promis. Puis nous aussi, tu sais, on doit pas juste garder nos yeux sur la terre, puis c'est un danger, hein, mais pas oublier qu'on a une destinée éternelle. Puis justement, dans la conférence, je vous parlais, Keith Getty a dit quelque chose que je vérifie depuis. Il dit beaucoup de vieux cantiques. Souvent, la dernière strophe nous amène au ciel. Pas tous, là, mais une majorité, c'est comme, tu sais, il se termine en disant, ben voici notre destinée éternelle. Et on a Marie puis les femmes qui répondent aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, je pense qu'on a juste effleuré le cantique. Puis c'est un long cantique, là, on aurait pu s'y attarder plus longtemps. Faut voir, puis on constate que vraiment c'est un cantique qui est riche dans son contenu. Puis il faut, je pense, chanter des chants qui sont riches en contenu, qui nous enseignent, qui nous encouragent, qui nous exhortent. Matthieu Henry, dans son commentaire, il fait les remarques suivantes à propos du cantique de Moïse. Il dit « C'est une composition admirable, je suis d'accord avec lui. » C'est un cantique qui exalte le nom de Dieu et qui célèbre sa gloire. Puis ça, c'est important aussi. Des fois, des cantiques sont centrés sur nous, tu sais, sur tous les bénéfices. Mais je pense qu'il faut que nos cantiques aussi, puis premièrement, exaltent la personne de Dieu. Il poursuit en disant, c'est un cantique qu'ils ont chanté pour exprimer leur joie et leur reconnaissance envers Dieu. C'est un cantique qui va dire aussi, qui exprime leur délivrance. Puis j'aime ajouter aussi leur espérance parce que ça l'anticipe des choses. C'est un cantique qui exprime leur foi. Puis c'est vrai aussi. Puis le dernier verset d'Exode 14, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est écrit « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignait l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. » Donc, c'est un cantique qui exprime leur foi. Puis termine en disant, c'est un cantique qui exprime le triomphe de l'Église de Jésus-Christ et la victoire sur les ennemis. Puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu sais, il faut voir les récits de l'Ancien Testament pour ce qu'ils sont, mais c'est des belles images aussi pour nous comme Église. Je termine en finissant la citation que j'ai commencée tout à l'heure des Getty. Il dit « L'expression dans toute sa richesse de Colossiens 3,16 nous fait penser à des termes comme généreusement, magnifiquement, parfaitement et entièrement. Le contenu a son importance. Malheureusement, bien des chants écrits pour les églises et chantés par celles-ci ne sont pas conformes à cette description. Si nous n'avons le temps que pour quelques chants le dimanche, alors choisissons-les bien. Pourquoi perdre notre temps? Soyons exigeants et sélectifs. Nous ne devrions pas nous contenter de chanter superficiellement ou d'employer des expressions hors de leur contexte, nous focaliser exclusivement sur nous ou décrire Jésus d'une manière étrange à sa parole ou pire encore, d'une manière contradictoire aux Écritures. Tous les éléments des paroles devraient converger afin d'exprimer les Écritures de manière merveilleuse, réfléchie et approfondie pour chacun de ceux qui chantent. Si vous êtes membre de l'Assemblée des Saints, ne vous contentez pas de chanter. Réfléchissez. Qu'êtes-vous en train de chanter? Excusez, comment ce chant dirige-t-il vos regards vers Jésus tel qu'il s'est révélé dans sa parole? Quelles vérités sont déposées dans votre cœur et comment votre chant sert-il à les appliquer au cœur des personnes autour de vous? Quelles sont les paroles du chant qui vous inondent de joie parce qu'elles vous incitent à considérer Christ sous un nouvel angle et comment les chantez-vous aux autres, mais aussi à vous-même au cours de la semaine? Fin de la citation. Donc, ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est de démontrer la beauté de ce cantique-là, mais aussi de démontrer que ce que l'on chante a un impact. Et puis, vous savez, le chant, ça, on n'oublie pas des paroles. Hein? Il y a certains chants aujourd'hui que mettez-moi pas les paroles, puis probablement que je vais les chanter, parce que le chant, ça fait comme fixer dans notre esprit des pensées, des idées. Les paroles restent fixées. Donc, c'est important ce que l'on chante parce que ça nous reste. Puis probablement que beaucoup de choses que je crois sont pas nécessairement des choses que quelqu'un a prêchées ou que j'ai lues, mais c'est des choses que j'ai chantées. Puis as-tu le temps d'un chant? Fini? Tant qu'à avoir parlé du chant. Quel repos céleste, Mario, il dit qu'il est capable de le jouer.